Tu écoutes le podcast Conflits et gestion de crise de Major Prépa en partenariat avec Rennes School of Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Dans cet épisode, nous allons parler de la géopolitique de la cybersécurité avec Julien Nocetti, professeur associé à Rennes School of Business et responsable de la chaire cybersécurité de l'école. Alors Julien, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consistent vos parcours et quelles sont vos fonctions actuelles ?
Alors, je suis venu aux questions numériques et cyber il y a un peu plus de 10 ans. J'y suis entré par la Russie, qui est un prisme très, très particulier, mais peut-être très utile finalement dans ces grandes questions qui nous agitent tous. Alors, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, centre de recherche basé à Paris, où j'étais responsable des activités sur ces thématiques. Et par la suite, je travaille désormais à Rennes School of Business, où j'ai lancé cette activité de chaire sur les questions de cybersécurité, avec diverses formations qui vont être proposées à la rentrée prochaine. Et j'enseigne les relations internationales et les questions cyber aux écoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan. Et je suis également chercheur à GEOD, un centre de recherche qui veut dire géopolitique de la datasphère, qui dépend de Paris 8 et qui traite aussi tous ces grands enjeux numériques.
Alors merci pour cette présentation, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors peut-être avec d'abord une première définition, puisque le terme de cybersécurité est peut-être pas forcément très limpide et très clair pour tous, et peut-être aussi pouvez-vous proposer une sorte de rétrospective historique de ce terme, puisque bien évidemment il est relativement récent, on va le voir.
Alors c'est vrai que l'intérêt qu'on porte à ce sujet, il est assez récent. Après, il y a une évolution extrêmement rapide, finalement, liée à ce terme et aux enjeux qu'il charrie. Il y a encore 10-12 ans, quand on parlait de cyberattaque, par exemple, c'était pour parler de quelques piratages qui visaient quelques établissements bancaires ou des assurances. Bon. Ça a énormément changé depuis la dernière décennie, pardon, avec des enjeux économiques et financiers très importants et aussi fondamentalement politiques et stratégiques. Ces questions de cybersécurité aussi, elle fait pas consensus. Elle fait pas consensus pour une raison toute bête, c'est que certains États souvent tendance à opposer les Occidentaux d'un côté, Européens, Américains, et les Russes et les Chinois de l'autre, ce qui est peut-être caricatural, mais ce qui peut contribuer à bien saisir ces enjeux. Et si vous voulez, ces États n'ont pas la même conception de ce que recouvre la cybersécurité, ni même de ce que recouvre le terme de cyberespace. En Occident, et surtout aux États-Unis, il y aura peut-être une lecture plus technique, plus technologique de cet enjeu cyber et de ce que doit être la cybersécurité. Alors qu'en Russie ou en Chine, par exemple, il n'y a pas la séparation que nous on fait en Occident entre l'outil technique, l'infrastructure, de ce qui est produit en ligne, c'est-à-dire voilà, des contenus, de l'influence qui peut être faite à des fins politiques. Bon, et ça en Russie et en Chine, c'est quelque chose qui est extrêmement intégré, très combiné. Russie et Chinois appellent ça une approche globale. Bon, c'est ce qui fait leur spécificité. Et c'est pour ça que quand Moscou ou Pékin nous parlent de cybersécurité, ils nous parlent peut-être davantage de menaces informationnelles ou d'opérations d'influence. Bon, et ça c'est un fossé conceptuel qui a toujours cours aujourd'hui et qui explique peut-être aussi certaines vulnérabilités qu'on a pu connaître en Occident, et je pense peut-être surtout aux États-Unis, au moment de la campagne présidentielle de 2016, hein, qui avait opposé Donald Trump et Hillary Clinton, où on a vraiment pris conscience de cet enjeu informationnel. Donc, pour résumer, si vous voulez, cet enjeu de cybersécurité, il a pris forme, hein, bien évidemment, de assez longue date, mais les enjeux se sont démultipliés au fur et à mesure que les activités humaines et économiques sont de plus en plus liées aux facteurs numériques. Et que les pirates informatiques sont aussi d'une très grande ingéniosité pour exploiter des vulnérabilités à des fins économiques, on le verra, et puis aussi politiques et stratégiques.
Oui, on va revenir sur beaucoup de ces enjeux que vous avez évoqués en surface. Alors peut-être une autre question assez élémentaire finalement, pourquoi faut-il s'intéresser à la cybersécurité en 2021 ?
Alors, il faut s'y intéresser pour au moins une raison peut-être toute simple, c'est que le cyberespace, il est vraiment devenu l'épine dorsale des relations internationales aujourd'hui. Et j'irai même au-delà, peut-être même de toutes les activités humaines, voilà, sociales, économiques et politiques. Sachant qu'une partie du militantisme politique aujourd'hui dépend de ce facteur numérique, etc. Donc pour cette raison, cet enjeu cyber est aujourd'hui incontournable. Donc aucun acteur, que ce soit des États, des organisations privées, des organisations multilatérales, les individus, ne peuvent pas passer au-delà de cet enjeu cyber. Sachant qu'on est tous confrontés à différents niveaux à ces menaces et ces risques potentiels. S'intéresser aussi à cet enjeu cyber en 2021, c'est aussi prendre conscience en fait de la séquence très particulière qui s'est ouverte il y a un peu plus d'un an avec la crise du Covid-19. Qui a vu une multiplication de ces risques cyber, avec là aussi des vulnérabilités qui touchent de petits acteurs, des États, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, à différents niveaux et avec des niveaux de dangerosité là aussi très divers. Donc si vous voulez, aujourd'hui ce facteur cyber il est incontournable. Je l'ai évoqué. Il fait partie de la vie quotidienne des organisations humaines en général, sachant qu'il comporte aussi des dimensions économiques et financières extrêmement importantes. Donc les États ne peuvent pas faire l'économie aujourd'hui de s'intéresser et de renforcer leur propre défense. Sachant que certains acteurs sont plus ou moins hostiles ou pressants dans ce milieu là aussi très particulier.
Alors ce qui nous intéresse précisément aujourd'hui, c'est la dimension géopolitique de la cybersécurité qui se décline finalement en deux grands axes. Alors on a d'une part la question de la manipulation des masses, de l'information, de l'influence d'un État ou d'une entité vers une autre entité. Ça c'est la première chose. Et d'autre part, effectivement, les cyberattaques telles qu'on entend parler de plus en plus aujourd'hui et qui vont paralyser soit un État, soit une industrie, soit une entreprise en particulier. Simplement peut-être pour s'appesantir d'abord sur la première dimension, quels sont aujourd'hui, un petit peu, quel est le panorama aujourd'hui de cette dimension, j'allais dire, un peu manipulative de la cybersécurité quand on se penche sur cette question à l'aune de la géopolitique?
Ça, c'est un point extrêmement intéressant parce qu'il est aujourd'hui fondamental, surtout depuis cette séquence que j'ai rappelée tout à l'heure, de 2016, de la campagne électorale américaine, où en Occident, on a pris conscience, avec peut-être un peu de retard d'ailleurs, de cette double menace, au fond, avec d'un côté un enjeu technique, on va dire, avec des cyberattaques perpétrées à différentes fins d'ailleurs. Ça peut être à des fins de simple criminalité, aussi à des fins de d'espionnage, j'y reviendrai, à des fins de sabotage aussi, même si c'est un peu plus rare, fort heureusement. Mais cet enjeu informationnel à côté a pris une dimension très très particulière. On a très souvent coutume d'associer cet enjeu informationnel à la Russie, qui depuis la crise ukrainienne ouverte en 2014 a rappelé que Moscou possédait un riche héritage en matière d'exploitation d'informations à des fins stratégiques. Et dans le contexte de cette élection présidentielle américaine de 2016, il y a eu une attitude très décomplexée de différents acteurs russes, services de renseignement, hackers, etc., qui se sont introduits au départ dans les serveurs de la Convention démocrate américaine pour y subtiliser des données, espionner aussi, également les activités qui s'y produisaient. Avant d'introduire des cyberespions finalement. Et cette activité s'est doublée d'un activisme très poussé sur les principaux réseaux sociaux, les principales plateformes de type Facebook, YouTube, Twitter aussi, à des fins d'influence pour essayer de peser sur le sort du scrutin américain. Donc c'est vraiment à partir de ce moment très charnière qu'on a eu un intérêt plus politique porté à cet enjeu, qui s'est ensuite transcrit dans d'autres pays, dans d'autres contextes. Je pense en particulier à un niveau peut-être moindre, bien évidemment, à l'élection présidentielle française de 2017, où il y a eu différentes tentatives comme ça d'essayer de peser sur l'issue de l'élection par le biais de d'activités de propagande, de subversion, de manipulation d'information, avec des productions de faux, des distorsions de faits, des exagérations, etc. Donc ça c'est un paramètre qui aujourd'hui est un fait dans les relations internationales aujourd'hui, dans cette géopolitique très complexe, hein, qui est indissociable de ce facteur informationnel. Et la séquence ouverte par la crise du Covid-19 est aussi venue rappeler l'importance de cet enjeu, avec un pays comme la Chine, qui s'est d'ailleurs beaucoup inspiré de ce qu'a fait la Russie auparavant dans ce domaine, et qui a, à certains moments, a essayé d'exagérer, de produire un certain effet sur les principales plateformes du web, pour essayer de faire oublier ses propres responsabilités dans son incapacité à circonscrire la crise sanitaire. Bon, et ça doit interpeller bien évidemment les dirigeants internationaux, et ça fait l'objet de débats aussi stratégiques très 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 nourris dans le monde entier. Donc ça, c'est un enjeu qui concerne plus seulement la Russie aujourd'hui. Cette menace informationnelle chinoise est prise très au sérieux. Évidemment, tout ceci faisant partie d'une géopolitique, encore une fois, très, très, très complexe et très évolutive. Parce que ce qui caractérise aussi ces grandes questions de cybersécurité, au sens large, c'est leur évolutivité. C'est pas un sujet, c'est pas une matière figée, comme pouvait l'être, par exemple, les grandes thématiques nucléaires à l'époque de la guerre froide, où là, on est aujourd'hui dans un contexte très de conflictualité très très latente, qui évolue sans cesse, qui se situe sous le seuil de la guerre, donc avec une difficulté aussi peut-être pour les décideurs politiques, militaires, etc., à s'approprier cet enjeu, parce qu'il il bouleverse complètement les repères traditionnels qu'on pouvait avoir auparavant.
Oui, vous le disiez en introduction, hein, c'est un sujet relativement récent et pourtant qui évolue à une vitesse assez vertigineuse. Justement, ça amène deux questions sous-jacentes. D'abord, peut-on parler de cyberguerre? Parce que voilà, vous avez fait le parallèle entre cette notion de cybersécurité et de guerre, c'est la première question. Et ensuite, y a-t-il des États, peut-être, alors vous avez évoqué la Russie notamment, des États plus belliqueux que d'autres, des États qui attaquent, des États qui défendent, ou est-ce que c'est peut-être un peu caricatural de fonctionner, d'avoir ce logiciel un peu de pensée, et finalement, on a en fait des États qui se rendent coup pour coup à travers justement cet espace informatique.
Alors, on entend très souvent parler effectivement de cette expression de cyberguerre. Peut-être par facilité de langage, je ne sais pas, mais c'est peut-être aussi une façon d'accoler nos propres repères finalement sur la guerre traditionnelle à ce domaine très particulier qui est le cyberespace. Cyberespace qui en fait est d'autant plus particulier qu'il va innerver ce qu'on appelle les espaces communs. La mer, l'air, la terre et l'espace sont concernés par cette cyberconflictualité ou cette cyberguerre. À titre personnel, je suis plutôt réservé sur cette dimension de guerre finalement, parce que on n'est pas dans un contexte où des États vont déclarer ouvertement la guerre à d'autres États. On est dans un fonctionnement qu'on peut appeler aussi de façon un peu caricaturale hybride, où les stratégies des États, les réponses aussi que ceux-ci vont apporter vont être hybrides, dans le sens où elles vont très souvent se situer sous le seuil de la guerre, avec une dimension très très forte via le cyber qu'a prise espionnage. Et ça, ce sont des paramètres qui aussi doivent inviter à essayer de d'actualiser notre propre logiciel en la matière, parce que cette activité de cyberattaque, de cyberintrusion, etc., sont indissociables finalement des pratiques d'espionnage qui, elles, sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus anciennes. Bon, vous avez des acteurs qui sont plus ou moins agressifs, évidemment, dans le cyberespace, qui essaient de montrer par ce biais une politique de puissance. Donc la Russie et la Chine, évidemment, viennent toujours à l'esprit, parce que ce sont deux États qui sont dans des stratégies dites révisionniste, qui n'hésite pas à défier le leadership américain depuis la fin de la guerre froide, qui renforce leur propre arsenal en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, qui mettent en scène aussi leurs propres capacités. Je pense en particulier à Vladimir Poutine, le président russe, qui communique, et d'ailleurs parfois de façon un peu ironique, sur les propres capacités cyber de la Russie. Et là, je fais référence à certaines interviews où il était interrogé sur les activités des hackers russes dans telle ou telle élection. Et une de ses réponses, il y a quelques années, avait été de dire que Bon, la Russie n'était pas impliquée. Bon, ce qui,
c'est discutable.
Mais que les hackers étaient des artistes peintres qui se levaient le matin pour composer une toile, etc. Donc derrière le côté très très décalé et caricatural de ce propos, il faut aussi y voir finalement une forme d'anticipation sur les acteurs qui comptent et qui doivent compter dans cette géopolitique en fait du XXe siècle, où ce sont plus seulement le nombre de têtes de missiles, etc., hein, de têtes nucléaires qui prédominent, mais ce sont également des acteurs plus opaques, plus hybrides, encore une fois, qui peuvent avoir une influence globale en utilisant des moyens beaucoup moins coûteux, finalement, que des moyens dits conventionnels, donc des tanks, des missiles, etc.
Oui, ce qui s'apparente presque finalement à une sorte de guérilla, en tout cas dans le procédé de la guerre, si on fait un parallèle avec la guerre physique telle qu'on la connaissait aujourd'hui, telle qu'on la connaissait hier plutôt, effectivement. Et justement, ça amène une autre question, finalement, quels sont ces hackers aujourd'hui? Quels sont leurs liens réels avec les États? Donc voilà, on parlait notamment de la Russie, des propos de Vladimir Poutine. Est-ce que ce sont des sortes de mercenaires? Est-ce qu'ils sont formés ou non par l'État? Est-ce qu'ils sont commandités par les différents États? Ou est-ce qu'ils agissent finalement de manière assez opaque et de manière assez décorrélée de toute velléité étatique, j'allais dire?
Alors, les liens entre les hackers et les États sont très délicats, finalement, à analyser, pour plusieurs raisons. Une raison principale, c'est que il y a très souvent de la part des États qui recourent aux services de hackers, hein, soit des groupes ou soit des individus. Il y a une volonté de faire en sorte que d'autres États visés par des attaques ne puissent pas remonter à la source, à l'origine de l'attaque initiale. Et ça, c'est une dimension très très importante et qui peut rappeler dans un domaine plus classique, hein, le recours par les États aux sociétés militaires privées. Hein, c'est très 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 souvent pour éviter que on attribue à tel État une action militaire, une action hostile, voilà, sur un terrain donné. Donc là, dans le cyberespace, on est un petit peu dans ce même type de configuration, avec des hackers qui seront voilà des acteurs à part entière. Alors la difficulté est bien sûr de démêler tous les fils, tous les liens entre une décision politique, entre un lien organique entre un État et un groupe de hackers. Avec la connaissance qu'on a aujourd'hui de signatures électroniques, de modes opératoires, on arrive parfois à attribuer, hein, certaines techniques à des hackers qui ont des liens avec des services de renseignement. Ça a été le cas depuis 4-5 ans avec au moins deux groupes russes, deux groupes affiliés à l'État russe, qui ont été connus sous le nom de Fancy Bear et Cozy Bear, qui seraient affiliés aux services de renseignement extérieurs et militaires de la Russie, et qui ont eu un rôle dans la campagne électorale américaine de 2016, encore une fois. On a peut-être aussi mis l'accent plus récemment sur des groupes de hackers nord-coréens ou qui seraient affiliés au régime nord-coréen. Et ça, c'est un cas de figure intéressant et qui prend racine dans un exemple très particulier que j'ai à l'esprit, qui a été l'attaque en 2014 qui avait ciblé une filiale de Sony, Sony Pictures, qui s'apprêtait à diffuser aux États-Unis un film qui parodiait Kim Jong-un, donc le leader nord-coréen.
Bien sûr.
Donc un film qui avait fait scandale et qui, évidemment, avec l'issue tragique donnée à Kim Jong-un, ne plaisait pas du tout à Pyongyang.
À Pyongyang, oui.
Et ce qui s'est produit, c'était dans la foulée, hein, des cyberattaques massives qui ont visé Sony Pictures, qui ont mis totalement à plat cette filiale, voilà, du géant japonais. Avec pour effet d'entraîner la prise de parole de Barack Obama, qui était à l'époque président, et qui, le jour de Noël, fin 2014, a pris la parole à la télévision américaine en attribuant directement à la Corée du Nord cette attaque, parce que les services américains avaient trouvé que le groupe de hackers Lazarus avait été à l'origine de l'attaque et avait des liens avec le régime nord-coréen. La Russie, d'un côté, la Russie n'est pas la seule impliquée dans cette géopolitique des hackers, et de l'autre côté, d'autres États sont aussi très très actifs, hein, en la matière et recourent aux services de tels groupes. voilà, auquel on peut parfois voilà, remonter les liens et essayer d'attribuer hein, des contacts entre les services de ces États et ces groupes de hackers. Après, à certains moments, certains de ces groupes ont des loyautés à géométrie variable, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas forcément fidèles à tel ou tel État, mais seront essentiellement mus par des logiques de profit. Donc, ils iront au plus offrant. Donc là, c'est aussi une activité qui peut rappeler voilà, les corsaires à l'époque de la piraterie. On est finalement dans une activité voilà, de piraterie assez classique, même si très, très réactualisée.
En matière de géopolitique, de manière générale, on parle fréquemment des budgets militaires hein, pour comparer effectivement les puissances, les rapports de force entre les États. Quid du budget des États consacrés à la cybersécurité ? C'est-à-dire, voilà, donc déjà en valeur absolue, quel budget peuvent-ils consentir chaque année ? Est-ce qu'on en a une idée ? Et ensuite, quels sont les leviers qu'ils actionnent en termes humains, en termes de recherche et développement ? Comment concrètement considérer cette géopolitique de la cybersécurité, cette fois-ci à l'aune vraiment des économiques et des investissements consentis par les États ?
Alors c'est extrêmement délicat d'avancer des budgets concrets pour une raison très simple, c'est que la plupart sont frappés du sceau de la confidentialité. Ce qui est notable toutefois, c'est que on est dans un contexte évidemment voilà de hausse des vulnérabilités et que la plupart des États, hein, grandes puissances comme moyennes ou États dits plus modestes, sont dans un effort de rattrapage financier. D'abord pour muscler leur défense, hein, donc leur moyen de lutte défensive, leur moyen de protection. Qui, dans le cas de certains États, avait été négligé. Et je pense là au cas des États-Unis, qui, à la suite de la récente affaire SolarWinds, se sont rendus compte que finalement, ils avaient privilégié la dimension offensive, la lutte offensive dans le cyberespace, au détriment de leur propre protection de leurs infrastructures. Bon. Donc, cette dimension de protection, elle est aujourd'hui assez centrale chez les États. Et là, je pense en particulier à l'Europe, où vous avez toute une série de débats et d'initiatives, y compris au niveau européen, pour essayer d'harmoniser les approches en la matière et de faire en sorte que l'Union européenne en tant que telle soit la plus immunisée possible en matière de cyberattaque. Donc la question de la défense est d'abord prioritaire. Ensuite, il y a la dimension de la lutte offensive, ce qui dans le jargon stratégique français s'appelle la lutte informatique offensive, la LIO, et qui elle aussi fait figure de priorité finalement chez les États qui veulent avoir une influence internationale en la matière et peser dans cette géopolitique du cyberespace. Bon, là, vous avez évidemment les trois grandes puissances cyber que sont États-Unis, avant tout, Chine ensuite, et Russie en troisième lieu. Et puis aussi, certaines puissances de rang intermédiaire, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Iran, la Corée du Nord, etc., Israël, qui pourront aussi chercher à peser dans cette conflictualité par le biais de cyberattaques. Donc, si vous voulez, ces cyberattaques ne sont pas du seul ressort, du seul fait d'États qu'on juge peut-être plus hostiles. La plupart hein, des États aujourd'hui se livrent à des cyberattaques, médiatisent ou pas, attribuent ou pas ces attaques, mais ça fait partie de leur arsenal aujourd'hui qui est absolument incontournable.
Oui, c'est très clair. Alors, peut-être une dernière question pour conclure d'ordre plus prospectif, j'allais dire. À quoi peut-on s'attendre pour la décennie qui s'ouvre aujourd'hui ? Quels seront les grands enjeux en matière de cybersécurité, toujours dans cette dimension géopolitique ?
Il y a un certain nombre d'enjeux et de vulnérabilités aussi qu'on peut identifier. J'en distinguerai peut-être deux ici. La première, elle est peut-être liée à un contexte technologique qui évolue très rapidement. Et je fais référence au développement et à la démocratisation de l'intelligence artificielle depuis le milieu des années 2010. Donc ça va s'accélérer bien entendu, avec une dépendance à une forme d'automatisation aussi dans nos activités humaines et économiques. Et ça, évidemment, ça fait peser un certain nombre de risques, de vulnérabilités, parce que un certain nombre de ces intelligences artificielles n'ont pas été forcément pensées pour être sécurisées et peuvent être très bien utilisées par des pirates informatiques aussi à leur propre fin, donc à des logiques dans une finalité criminelle ou une finalité stratégique si des États sont derrière ça. Ça, c'est un premier point. Tout ça dans un contexte aujourd'hui où les objets connectés se multiplient aussi. Donc, ce qu'on appelle l'Internet des objets, hein, depuis quelques années. Là aussi, peut-être le point d'entrée pour des attaques informatiques. Il y a déjà eu un exemple aux États-Unis en fin 2016 qui a montré que ça ne relevait plus du fantasme et que ça pouvait très bien être le point de départ à des attaques de grande ampleur. Et là je pense à cette attaque qui avait ciblé au départ des frigos connectés aux États-Unis sur la côte est américaine. Et qui avait abouti à la paralysie pendant quasiment 48 heures des services de grandes plateformes américaines et de grands médias américains. Au départ, un événement tout à fait anodin en apparence et qui peut avoir un impact évidemment très très concret et très dommageable pour une région ou un pays ou un pays entier. Et dernièrement, ce à quoi on peut s'attendre aussi, là aussi, en lien avec cette multiplication des objets connectés, c'est le développement de la 5G, avec là aussi une technologie qui fait l'objet de vraies tensions géopolitiques, hein, en plus d'enjeux économiques très 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 concrets. 5G qui va connecter les principales infrastructures, en fait, hein, hospitalières, urbaines, les activités de production économique. Et qui va nécessairement aussi dépendre hein, de ce facteur numérique et qui va accroître mécaniquement les vulnérabilités. Donc des hackers pourraient très bien cibler à l'avenir et davantage ce type d'infrastructure que parfois on qualifie de critique. Et je pense que c'est un euphémisme, bien évidemment, dans le contexte hein, des prochaines années et décennies.
Ben voilà, en tout cas, on aura bien compris qu'on n'aura pas fini de parler et d'entendre parler de cybersécurité. Un grand merci à vous, donc Julien Nocetti, je le rappelle, donc professeur associé à Rennes School of Business et responsable de la chaire cybersécurité de l'école, et bien pour l'ensemble de vos réponses. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Et quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa.